J'ai mis pas le son de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique les amis, c'est parti pour un nouveau numéro de votre pause déjeuner, ensemble on va jouer. Alors d'ici quelques instants, on retrouvera Béa du magasin Terre de Jeux à Nantes qui reviendra sur un classique qui s'appelle Carpe Diem et puis je me demanderai aussi ses trois coups de cœur de Cannes. Mais avant, hein, comme tous les jours, je vais vous présenter un jeu. Et au menu, aujourd'hui, c'est Flipping Frogs, un jeu de Okabe Tayuka, illustré par Mathieu Beaulieu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et édité par Atalia. Alors dans ce jeu de pose de tuiles, votre but sera d'être le joueur avec le plus de grenouilles visibles à votre couleur à la fin de partie. Au niveau du matériel, vous avez 36 tuiles, hein, comprenant des grenouilles rouges, vertes, bleues et jaunes, ainsi que des serpents. C'est pas bien les serpents. Alors vous avez aussi 4 marqueurs grenouilles, chaque joueur en prend un, ça lui indique hein, quelle est sa couleur de grenouille, qu'il ne révèle surtout pas bien sûr. Il prend aussi 3 tuiles, il ne vous reste plus qu'à mettre le plateau de 16 cases, hein, 4 par 4, au centre de la table, et vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez jouer une tuile, puis résoudre son effet. Pour jouer une tuile, hein, il suffit de la placer sur une case vide du plateau ou sur une case où il y a déjà une tuile retournée. Ensuite, vous allez appliquer l'effet de la tuile grenouille que vous venez de jouer. Petite précision, mais tout le monde va jouer hein, toutes les grenouilles. À vous de faire une stratégie hein, pour que ça soit votre couleur hein, qui domine la jungle à la fin de la partie. Il faut savoir que sur chaque tuile grenouille, il y a des flèches qui indiquent quelles sont les grenouilles adjacentes ou en diagonale qui vont être retournées. S'il y a une tuile grenouille posée sur une tuile face cachée, en la retournant, bah vous ferez apparaître la première grenouille. On applique l'effet pour toutes les tuiles adjacentes selon les flèches à la grenouille jouée. Alors si vous posez une tuile serpent sur une grenouille, bah là elle est carrément défaussée avec le serpent. Par contre, vous ne défaussez pas la tuile face cachée en dessous s'il y en avait une. Une fois l'effet réalisé, vous repiochez une tuile grenouille pour en avoir toujours 3 en main. Et c'est au joueur suivant de faire pareil, et ainsi de suite. Donc les grenouilles vont être retournées sans arrêt. La partie s'arrête quand il n'y a plus de tuiles grenouilles ou que tout le plateau jungle avec des tuiles grenouilles visibles est plein. Le joueur qui a le plus de grenouilles visibles à sa couleur remporte la partie. Ce que j'en pense de Flipping Frogs, c'est un petit jeu familial très rapide à jouer où l'on passe un bon moment. Forcément, tout le monde va jouer toutes les couleurs de grenouilles, ou du moins celles qu'il aura dans la main. Il faut essayer donc de jouer intelligemment pour ne pas se faire démasquer, surtout si vous jouez à deux. Voilà, donc ça s'appelle Flipping Frogs, et c'est sorti, ou ça va sortir dans quelques jours, chez Atalia. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Béa du magasin Terre de Jeux à Nantes, mais tout de suite, eh bien, on va s'écouter le dernier Clara Luciani. Avec courage.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Femme, quoi qu'il pèse, le ventre lourd ou desserti d'amour. Je porte 100 000 drapeaux, mes idéaux et mes foutaises. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait tâche, tu ne t'y attendais pas. Je porterai plus que mon bagage. Je m'en fiche si tu me trouves lâche. Pas d'amour sans partage. Pas d'amour sans partage. Je plie, je ploie.
c'est un peu notre trésor. C'est ludique, ce jeu est un classique.
Et comme tous les jeudis, on retrouve Béa du magasin Terre de Jeux à Nantes. Salut Béa.
Et salut Matt, comment ça va?
Bah ça va bien, et toi, ça s'est bien passé, Cannes?
Eh bah écoute, ça s'est plutôt très bien passé. C'était trop court, c'était fatigant, mais c'était très chouette.
Alors tu nous donneras tes trois coups de cœur hein, du festival tout bien à l'heure. Sûr. Mais avant, on va retrouver hein, cette rubrique « Pourquoi on l'aime encore ?» Quel jeu est dans ta ludothèque et qui ne sortirait pour rien au monde?
Eh ben, je vais vous parler aujourd'hui de Carpe Diem. Donc, c'est un jeu de Stefan Feld qui est illustré par Eric Elwald. Donc là, je parle de la dernière version d'Aléa.
D'accord.
Et c'est édité, du coup, bah, comme je viens de le dire, par Aléa.
Aléa, d'accord, très bien.
Exactement.
Donc, Carpe Diem, on est plutôt sur du jeu expert, non?
Oh, bah, alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est du Feld, donc on est considéré, c'est considéré comme du expert, mais en termes de mécanique, personnellement, je le mettrais plus en initié plus.
D'accord, ok.
Du coup, qu'est-ce que c'est Carpe Diem? Dans Carpe Diem, on va incarner un sénateur romain et vous allez devoir construire votre village. Donc chaque joueur va avoir son plateau personnel et vous allez avoir un plateau central qui va regrouper des... qui va avoir des... Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué à expliquer celui-ci pour le coup, des regroupements de quatre tuiles. Vous avez votre petit sénateur et le petit sénateur que vous avez, il va se positionner sur un groupe de tuiles et à votre tour, vous allez le déplacer, donc soit sur le groupement en face, soit sur le groupement légèrement décalé sur la droite.
D'accord.
Et vous prenez une des tuiles.
Okay.
Cette tuile, vous venez la positionner sur votre plateau et il faut forcément la positionner de manière adjacente. Donc, sur cette tuile, vous allez avoir plusieurs de choses. Vous allez avoir des types de terrain, comme des vignes qui vont faire gagner des vignes, du coup, des feuilles de vignes.
Ouais.
Vous allez avoir des lacs qui vont vous donner du poisson, mm-hmm. des poulaillers qui vont vous donner des cocottes. Et vous allez aussi avoir plusieurs types de bâtiments. Vous allez avoir des sortes de maisons qui vont être en deux tuiles. Donc, il va falloir accoler les deux tuiles pour pouvoir générer l'effet du bâtiment. Donc là, par exemple, vous allez avoir des boulangers qui vont vous donner du pain. Le pain permet de se déplacer où l'on veut sans suivre les contraintes. Vous allez avoir, par exemple, le sénateur. Le sénateur, la maison de sénateur va vous permettre d'avancer sur la piste politique. Ça, j'y reviendrai après. Vous allez avoir aussi, par exemple, là, comme ça, tout de suite, j'ai plus le nom.
D'accord.
Vous allez avoir aussi des maisons. Donc ces maisons, pour le coup, ça va être des maisons que vous allez construire en plusieurs tuiles. Elles vont avoir des fenêtres. Le nombre de fenêtres va rapporter un certain nombre de points en fin de partie. Vous allez avoir du marché qui va vous donner des pièces d'or. Les pièces d'or vont vous permettre une ressource joker. Vous allez avoir des fontaines. Les fontaines vont vous permettre de piocher des objectifs personnels. Donc je crois que c'est à peu près tout sur le type de bâtiment. La manche va prendre fin lorsqu'il n'y a plus de tuiles à récupérer sur le plateau central. Et c'est là que vient ensuite tout le sel du jeu puisqu'il va falloir valider des objectifs. La piste politique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre de choisir en premier, d'avoir l'initiative sur cette piste d'objectifs, sur ces cartes objectifs.
Mmh.
Et vous allez placer un de vos jetons entre deux cartes objectifs.
D'accord.
C'est un tableau de cartes en fait. Et vous le placez au milieu. Entre deux cartes, et il va falloir réaliser les objectifs de ces deux cartes. Si vous ne le faites pas, vous perdez des points. À savoir, vous êtes obligé, du coup, de valider, en tout cas, de chercher à valider deux objectifs à chaque manche.
Ah oui, d'accord.
Et les objectifs. Exactement. Et en fait, ce pion, là, votre pion que vous avez placé entre deux cartes objectifs, eh ben, il va rester tout du long de la partie. Donc, plus vous allez avancer dans la partie, moins vous aurez le choix des objectifs à valider.
Ouais.
Les objectifs, quand vous les validez, ça va vous donner soit des points, soit des ressources.
D'accord.
Et à la fin, qu'est-ce qui va vous rapporter des points? Du coup, bah, les derniers objectifs que vous validez, votre avancée sur la piste politique, par exemple, si vous avez 17 en politique, vous marquez 17 points, le nombre de ressources restantes, et comme je l'ai expliqué, les fameuses cheminées des maisons que vous avez construites. Donc, mécaniquement, bah, c'est du Feld, c'est pas très compliqué. Vous bougez votre sénateur, vous récupérez la tuile, vous la posez, vous construisez votre village. Par contre, comme d'habitude, salade de points, énormément de manières de marquer des points, et ça, c'est toujours hyper satisfaisant. Ce qui est très satisfaisant aussi, c'est de voir se construire son village, et on ne peut pas résister à l'attrait de « Ah bah, je vais mettre un petit marché là, ah bah, je vais mettre une boulangerie ici. » Ah, ça manque de fontaine quand même, par là.
Ouais.
Et du coup, ça, ça marche très très bien. On peut dire, pour le résumer très très grossièrement, que c'est le Carcassonne expert.
Ah d'accord, c'est comme ça que tu l'appellerais.
Moi personnellement, oui. Après, on est d'accord que ce n'est pas Carcassonne, puisque ce n'est pas un plateau commun,
ouais.
une construction commune. Mais voilà. Ah, je ne l'ai pas dit, mais il y a autre chose aussi qui va vous servir à marquer les points, c'est qu'autour de votre plateau personnel, vous allez avoir des languettes qui vont venir se positionner, qui vont changer à chaque partie, qui va vous dire que si vous placez une ville sur cette ligne-là, vous marquez 5 points. Si vous placez une fontaine sur cette ligne-là, vous marquez 3 points, ce genre de choses. Et ça, ça change à chaque fois. La rejouabilité est plutôt très très bonne.
Donc ça s'appelle Carpe Diem. C'est sorti il y a quelques années, ce jeu, non?
C'est sorti en... alors, ça doit bien faire 7-8 ans. Hein.
Ouais, d'accord.
Non, non. Je n'ai pas la date exacte de sortie, là, mais... Mais si, si, c'est ça, hein, c'est que... alors, là, la réédition d'Aléa dont je parle est sortie en 2020, mais c'est un jeu qui date de bien avant, puisque la toute première édition était typiquement un jeu à l'allemande, en tout cas esthétiquement parlant,
ouais.
Du coup, beaucoup moins beau. Là, Aléa a fait vraiment un travail de réédition qui est très, très cool. Donc, ouais, je pense que la première version doit avoir au moins 10 ans, quoi.
D'accord, ok, très bien. Donc, Carpe Diem, qui est le classique hein, de cette semaine.
C'est ça.
Alors maintenant, Béa, on va revenir sur ton festival de Cannes. Je suppose que tu as vu plein de jeux.
Et, oh oui.
Et alors, il y en a certainement que je pense que tu as dû être déçu un petit peu. Hein.
Pas tant.
Pas tant. Bon, d'accord.
En vrai.
Pas tant. D'accord.
En fait, ce que moi je retiens du festival de Cannes, c'est surtout, et je suis pas la seule à dire, hein, la prolifération de jeux à deux.
Ah oui, ah bah ça tout le monde l'a dit, ouais, tout le monde l'a dit, c'était l'année du jeu à deux.
Exactement, très peu de jeux experts.
Ouais, ça aussi.
En tout cas de gros jeux, je crois qu'il y a Navoria chez Asmodée, Novalis par contre nous régale là-dessus, et on peut faire confiance à Lucky Duck et à Super Meeple pour en présenter, mais je crois que c'est à peu près les seuls. Ouais. Je ne suis même pas sûre d'en avoir vu un chez Gigamic, alors que Gigamic, d'habitude, ils en font au moins un par an.
Ah, alors c'est pas vraiment un expert, mais il y a Olte qui arrivera en septembre.
Ouais, moi je l'ai pas trouvé expert, Olte, pour le coup.
Non.
Mais ouais. Après, ça, il m'a pas convaincu de base.
Bon, bah alors voilà. Alors, on va parler de tes trois coups de cœur. Quels sont tes trois coups de cœur? On commence par le numéro 3, bien sûr.
Non, en plus, est-ce qu'on peut appeler ça un top préférence?
Ah d'accord, un top préférence si tu veux. Alors on appelle ça le top préférence. Donc,
voilà, parce que je suis incapable de les classer par ordre de préférence.
D'accord, ok.
Évidemment, les trois ont été vraiment des coups de cœur incroyables. Donc voilà, je peux parler de Présage, par exemple.
Ouais.
Mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir parlé de Présage.
Mais non, il fait partie aussi de mes coups de cœur, Présage. Et j'en parlerai la semaine prochaine, en plus, de Présage.
Ouais. C'est ça. Donc Présage, on est sur un jeu assez innovant, on est sur un jeu de défausse en équipe. Il n'y en a pas tant, à part Tichou, c'est vrai que je n'en ai pas vu beaucoup. Très malin. Alors par contre, on est sur du 4 joueurs, c'est de Maxime Rambourg, c'est chez Spiral Edition, et c'est magnifiquement illustré, parce que vraiment, en termes de design, c'est quand même assez incroyable. C'est illustré par Ben Rambourg,
Ben Renault.
Donc c'est ça, un jeu assez initié. Très malin, où vraiment la communication non-verbale avec son coéquipier va prendre de plus en plus d'ampleur. Bref, trop cool.
Ouais, bon, Spiral, franchement, à découvrir rapidement, ça sort la semaine prochaine.
Ouais. C'est ça. Ensuite, on aura Adjane Tavenu,
ouais.
Que moi j'ai eu la chance de découvrir il y a un peu plus avant Cannes, un mois avant, et j'enchaîne les parties. Mmh. Donc, un petit jeu vraiment qui à la base n'avait rien pour me plaire. Parce que c'était du bluff et que vraiment je suis un livre ouvert, on voit sur mon visage. Donc là, c'est vraiment un jeu hyper minimaliste, hyper épuré. L'idée, c'est qu'on va avoir deux pions qui se courent l'un après l'autre. Et il va falloir essayer de les rattraper. Pour ça, on possède quatre cartes. Et il va falloir les positionner de manière une face visible et une face cachée. Et c'est celui qui est en face, donc mon adversaire, qui choisira quelle carte il veut prendre. Et ça va déterminer combien de cartes on va avancer. Sachant que si on a une carte, on va avancer par exemple de 1 ou de moins 1. Si on a une deuxième, ça va changer le mouvement. Et une troisième plus, ça va aussi changer le mouvement. Il y a deux personnages qui sont un petit peu particuliers, qui sont le risque-tout. Si on a 3 risque-tout, on perd la partie. Et enfin,
cryptologue,
j'ai plus le nom.
Le cryptologue,
c'est ça. si on en a trois, eh bien, pour le coup, on gagne la partie.
Franchement, très bon agent à venue.
C'est ça. C'est vraiment, on enchaîne les parties. C'est complètement addictif. Et hop, je vais bien faire mon travail. Et je vais dire que c'est de Fanny Pastor Berry. C'est illustré par Fanny Pastor Berry. Et c'est de Christian Coudal et Laura Coudal. Et c'est édité par Nordlab Game, qui a fait aussi, du coup,
Mindbug.
C'est ça.
Et ça sort le 28 mars.
Ouais, c'est ça, le 28 mars. Exactement. Et enfin, le dernier, c'est le Gwent. Arrive chez Gigamic.
Ouais, cet été.
Ça arrive en septembre.
Ouais, fin août. Oui, fin août.
Ouais, c'est ça. Si tout va bien.
Oui, c'est toujours comme ça, bien. Ça on ne sait pas. Mais voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce jeu?
Oui, bien sûr. Donc, c'est le jeu dans le jeu. C'est-à-dire que The Witcher, qui est un jeu vidéo que je pense nous n'avons plus à présenter, a comme quête secondaire un jeu de cartes qui s'appelle le Gwent, qui est un jeu de cartes à collectionner, et dans lequel on va affronter les adversaires. Et donc du coup, c'est la version jeu de société de ce jeu de cartes à collectionner vidéo. Et ben c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un jeu d'affrontement très minimaliste, on va être à donc c'est du 2 joueurs, on est chacun avec son paquet de cartes, on en a 10 en tout. Et ça va se jouer en 3 manches. Il faut en gagner 2. Et c'est un jeu de timing. C'est-à-dire qu'à son tour de jeu, on peut jouer une carte ou on peut passer. Quand on joue une carte, on va la jouer soit sur la ligne d'affrontement direct, soit sur la ligne de derrière, et on va appliquer les effets. Vous allez avoir 5 factions. Chaque faction va avoir ses propres mécaniques. Et dans la boîte, et c'est ça qui est extrêmement appréciable, c'est que vous allez avoir toutes les cartes. Vous avez des decks de base qui suffisent largement à vous affronter. Et après, vous pouvez construire votre deck. Il n'y a pas de booster à acheter ni rien. Alors, peut-être que ça va se faire après, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Oh, il y a déjà pas mal de cartes.
Il y a énormément de cartes. C'est totalement addictif. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'en refaire une. Parce que où est-ce qu'on s'est planté? Où est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on arrête? Il y a du dilemme. Qu'est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Et ça dure un quart d'heure. Ouais. Et vraiment, ce truc de. Alors, j'ai un petit côté carteuse. Je joue un peu à Magic. J'ai beaucoup joué à Keyforge. Mais. C'est vraiment ce côté timing qui le fait sortir un peu du lot. C'est ce dilemme de, ok, est-ce que je garde mes cartes? Ou est-ce que j'essaye de le pousser à tout dépenser, quitte à plus en avoir moi-même?
Ouais.
Donc c'est vraiment ça qui fait que ça rajoute une saveur particulière et qui m'a énormément plu. Et je dois avouer que j'ai téléchargé l'application.
D'accord, ok. Donc ça sortira donc début septembre, donc à la rentrée. Voilà, donc tes trois coups de cœur. On rappelle donc Présage, Agent Avenue et Gwent.
Exactement.
Voilà. Et il y a d'autres choses que tu as vues qui t'étaient dit « Ah, c'était pas loin de mes coups de cœur » ou
Oui, bien sûr. Alors, on va avoir chez Neovidis Sengoku, qui est la réédition de Rumble Nation, qui est un jeu de conquête à base de dés hyper efficace, très agressif, hyper épuré. Vraiment très cool, donc ça, gardez l'œil dessus.
Ça s'appelle comment?
Sengoku. S-E-N-G-O-K-U.
Ok.
Daydream, qui arrive chez Visto Studio, hyper chill, ouais. Voilà, donc ça, vraiment trop bien. Ensuite, toujours en adulte, il y a Horticolor de chez Betula Édition, une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est un bingo des jardins. On va drafter des cartes jardin.
Ouais.
Et ensuite, on va jeter un pool de 4 dés de 4 couleurs différentes. Et on va les splitter en deux. Et en fait, il faut que les valeurs correspondent aux cartes. Éditorialement, il y a des big plaques. C'est pour ça que c'est un côté bingo. C'est par exemple, si j'ai fait un 6 et un 3, et ben, j'ai un 9 sur une carte, je prends une big plaque et je le mets sur le 9. Donc, c'est très chiant. C'est vraiment très. Je m'attendais pas à être séduite. Et puis, en fait, j'enchaîne pas mal les parties. Et pour les enfants, il y a Minis. Premier jeu d'enquête narratif pour 4 ans.
D'accord.
Chez Yellow.
Okay.
Par les auteurs des animaux de Descartes.
Ouais.
C'est incroyablement mignon. C'est trop, trop bien. Et toujours pour les enfants, Micro Macro Kids.
Oui.
Voilà. Moi, j'ai du mal avec les adaptations de jeux pour enfants, mais celui-ci est vraiment.
Ouais,
il est vraiment pensé pour les enfants et ça marche vraiment.
Très, très bien.
Voilà.
Et alors du coup, comment ça s'est passé cette journée du mercredi en tant que professionnelle, toi Béa? Est-ce que tu as été contente d'avoir moins de monde dans les années? Oui.
Oui, j'ai trouvé que vraiment en termes d'organisation, le festival cette année, aucun temps d'attente, la queue le matin, c'est-à-dire qu'on arrivait à 9h45, à 10h05 on était dans le palais, enfin vraiment, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool.
Eh ben super. Merci beaucoup Béa et on voilà. se retrouve jeudi prochain.
Avec grand plaisir.
Salut.
Je te dis à bientôt Thomas.
Bonne
salut.
Semaine.
Salut tout le monde.
Voilà les amis, c'est ludique, c'est terminé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est ludique. Passez une excellente journée sur Millennium. Et puis moi je vous retrouve bien entendu avec Greg dès 7h pour Miltonic. Salut.